pense qu'on a notre
J'aime pas
équipage,
ces
on est
termes.
pas mal. On a pas mal notre équipage, fait qu'on va commencer bientôt. Je vais vous mettre en sourdine, puis on va commencer notre étude. Attendez un petit peu. OK. Donc, on commence. On est dans la fête, le jour des expiations, dans les sept fêtes de l'Éternel. C'est la sixième fête. Après ça, il va en rester une, qui est la fête des tabernacles. On est dans les trois dernières fêtes qui sont en rapport avec Israël après que l'Église est enlevée. Et c'est la fête des trompettes pour les rassembler à Jérusalem, la fête des expiations ou le jour des expiations, on dit plutôt le jour des expiations. C'est là où ils vont être réconciliés à leur Messie. Et ensuite, la fête des trompettes, c'est quand ils vont rentrer dans le royaume avec leur Messie comme roi. Donc, la semaine passée, on a regardé, on a commencé le jour des expiations. On a dit que l'expiation, c'est l'action de réparer les fautes pour enlever la culpabilité. Puis on avait parlé quand même par rapport à l'expiation qui se fait. C'est un peu comme pour nous le salut, parce que c'est de reconnaître qu'on est perdu, qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Puis on avait parlé que souvent, ça arrive dans des moments difficiles, puis c'est ce qui va arriver avec Israël. Ils vont passer un temps très difficile. On appelle le jour de trouble de Jacob, où ils vont passer à travers une grande tribulation qui vont les amener à réaliser leurs besoins, puis se tourner vers leur Messie. Ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé, puis ils vont pleurer sur lui. Il va avoir la réconciliation avec une fontaine ouverte, une source ouverte pour la purification qui vient par rapport au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parce que tout le monde, dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont sauvés par le sacrifice de Christ sur la croix, le sang qui a été versé pour eux. Donc, on va lire encore notre passage dans Lévitique au chapitre 23. C'est à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. On y lit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Donc, on voit dans ce passage-là qu'il y a deux choses qui sont mises en évidence. L'emphase est mise sur le fait que aucune œuvre servile, c'est un jour de sabbat, on ne devait pas travailler parce que c'est seulement par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvés, mais aussi s'humilier, qui nous parle de la repentance, de reconnaître notre perdition devant Dieu. Eux aussi, il faut qu'ils reconnaissent leur perdition devant Dieu. Maintenant, on va aller au chapitre 16 du Lévitique, parce que c'est là qu'on voit le jour, les sacrifices qui se faisaient le jour des expiations en Israël. Donc, à partir du verset 1, Lévitique 16, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire. À cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, ni qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le Seigneur veut bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, on vient à Israël. Ce jour-là, c'était le seul dans l'année où le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Quand on parle de tente d'assignation, là, c'est le tabernacle. Le propitiatoire, c'est l'arche, le couvercle de l'arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint. Mais ce jour-là, le jour des expiations, c'était le seul dans l'année où le souverain sacrificateur, puis lui seul, il disait, il fallait pas qu'il y ait personne d'autre, le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Ça, c'était la présence même de Dieu au-delà du voile, puis dans la présence de Dieu où était l'arche de l'Alliance avec le couvercle de l'arche et les chérubins au-dessus de l'arche. Donc, c'était vraiment solennel. Quand ce jour-là, c'est un jour solennel, très solennel pour Israël. C'est le fait qu'un Dieu trois fois saint ou un pécheur pouvait rencontrer un Dieu trois fois saint sans être jugé parce que à cause du sang qu'il apportait, à cause du sang du sacrifice qu'il apportait. Donc, c'était sur la base d'un sacrifice, du sacrifice d'un substitut, quelqu'un qui était mort à la place. Parce que ça revendique vraiment la parole de Dieu quand Dieu avait dit dans le Jardin que le jour où il mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait certainement. Puis Satan a dit, vous ne mourrez pas certainement. Mais ici, on voit que le fait qu'il fallait qu'il y ait une victime qui meurt à leur place pour pouvoir rencontrer Dieu, ça revendique même la parole de Dieu qui avait été dite par Dieu à ce moment-là. Donc, Pierre nous dit, lui, que les anges désirent plonger les regards. Dans 1 Pierre 10, 1 Pierre 1, 10, 12, Pierre nous dit ça, puis on le voit sur le couvercle de l'arche parce qu'il y avait des chérubins. 1 Pierre 1, 10, 12, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, c'est tout un événement, le fait de pouvoir qu'un pécheur puisse être réconcilié avec un Dieu trois fois saint, le Dieu trois fois saint, eh bien, ça, c'est vraiment grandiose. C'est pour ça que on pense à toutes les religions des hommes, là, puis ça fait pas le poids, là, quand on pense à ça, là. Le plan de rédemption de Dieu, c'est un plan qui est de toute éternité, mais c'est un plan qui est tellement merveilleux que même les anges, puis les prophètes de ce temps-là ont écrit concernant ces choses-là, puis il leur a été dit à eux que c'était pas pour eux qu'ils l'écrivaient, mais c'était pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mais les anges, eux, ont un intérêt dans ça. Donc, sur le propitiatoire qui était le propitiatoire, comme on a dit, c'était le couvercle de l'arche de l'Alliance. On se souvient de l'arche de l'Alliance, mais le couvercle qui était dessus, ça, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Propitiatoire, ça vient de, on peut, c'est ce qui rend propice. Non seulement Dieu est réconcilié, mais il nous est devenu propice à cause du sang de Christ qui a été versé pour nous. Donc, sur le propitiatoire, qui était le couvercle de l'arche, il y avait deux chérubins qui regardaient l'endroit où le sang de la victime était aspergé. On mettait avec le doigt, on faisait l'aspersion du sang sur le couvercle, puis les anges plongeaient le regard. C'est ça que Pierre réfère quand il dit ça, dans lequel les anges désirent plonger le regard. Dans Lévitique, au chapitre 16 et au verset 14, voyez-vous, il dit, il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc, il devait mettre le sang là, puis c'est vraiment la base de l'expiation, c'est le sang qui avait été versé. Si on va dans Exode, au chapitre 25, Exode, au chapitre 25, puis on va lire les versets 17 à 22. Exode 25, 17 à 22. Il dit, tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras deux chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Ils déjà plongé leur regard. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, on voit ici l'endroit que Dieu se rencontrait avec l'homme. Donc, ce jour-là, le souverain sacrificateur, comme représentant du peuple, c'était lui qui représentait le peuple, il venait dans la présence de Dieu, il y avait seulement lui qui pouvait venir, mais il représentait le peuple. Puis, il semble que le souverain sacrificateur entrait trois fois ce jour-là dans la présence de Dieu, dans au-delà du voile, parce qu'on sait qu'il y avait une partie du tabernacle où les sacrificateurs pouvaient entrer, c'était le lieu saint. Mais après ça, il y avait un autre voile et l'autre voile séparait le lieu très saint du lieu saint. Puis le souverain sacrificateur seulement, lui, pouvait entrer au-delà du voile, puis il ne fallait pas qu'il y ait d'autres sacrificateurs avec lui. Donc la première fois, quand on voit dans les chapitres 16 de Lévitique, les versets 12 à 13, la première fois, il entrait là avec le parfum de l'autel des parfums ou l'autel d'or. Qu'on appelle l'autel des parfums, qui était juste devant le voile. On sait que dans l'Épître aux Hébreux, il place au-delà du voile, mais je crois que c'est parce qu'il y avait des brasiers. Il prenait des brasiers, un brasier, puis il prenait des charbons ardents sur l'autel d'or, puis avec ce brasier-là, il entrait au-delà du voile. Puis je pense que c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il était au-delà du voile. Mais il mettait le parfum sur le brasier, puis il entrait dans la présence de Dieu. Donc, la première fois, il entrait avec le parfum. Puis le parfum représente, lui, l'odeur de Christ. Pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est toujours en vue ici, là, parce que c'est certainement que c'est à travers le Seigneur Jésus qu'on peut se rencontrer avec Dieu. Donc, c'est l'odeur de Christ qui devait couvrir le propitiatoire pour que le sacrificateur ne meure point. C'est important. Puis que Christ est comme notre parfum aussi. C'est lui qui nous donne l'accès dans la présence de Dieu. C'est sur ses mérites à lui qu'on peut s'approcher de Dieu. La deuxième fois, il entrait avec le sang du taureau expiatoire pour expier son péché à lui et celui de sa maison. Dans les versets, dans le chapitre 16 de Lévitique, au verset 6, il dit, Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Et si on va au verset 14, il dit, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc, ça, la deuxième fois, il entrait avec le sang de son taureau pour expier son péché et celui de sa maison. La troisième fois, il entrait avec le sang d'un des boucs, parce que l'assemblée amenait deux boucs avec un des boucs qui avait été immolé. Il fallait qu'il amène le sang des boucs expiatoires pour le peuple. Puis là, il faisait l'expiation pour le peuple. Dans le chapitre 16 de Lévitique, au verset 5, il dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Au verset 15, il dit, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc la troisième fois, c'était pour le peuple qui devait venir. On voit que le peuple amenait deux boucs. Puis, donc, c'est important. Il y a deux boucs parce que vraiment, dans les types, on voit qu'un bouc ne pouvait pas faire les deux aspects du Seigneur Jésus-Christ, sa mort puis sa résurrection. Donc, il y avait deux boucs pour représenter pleinement le Seigneur Jésus. C'est pas étrange à l'Écriture parce qu'on voit que souvent, ça prend deux pour faire le type, comme Moïse est un type de celui qui, du Seigneur Jésus-Christ, qui fait sortir le peuple. Puis Josué était la deuxième partie où il faisait entrer le peuple dans la terre promise. Donc, les deux représentaient un seul, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit que les deux boucs ici, dans Lévitique 14, au verset 5 et 7, il y a deux oiseaux. Il y en a un qui est tué, puis l'autre est trempé dans dans le sang de l'oiseau qui a été tué, puis il est relâché. Donc, ça représente la mort et la résurrection. Donc, on a les deux oiseaux ici. Comme aussi dans Genèse 22, Isaac est un type du Seigneur Jésus-Christ. Il devait être immolé. Mais pour que ce soit fait, ben, Isaac a été épargné. Puis le bouc qui a été trouvé dans le bélier que Abraham a vu, qui était pris par les cornes dans un buisson, eh bien, lui, il est mort à la place. Puis Isaac, c'est comme si Isaac était ressuscité. Puis dans le Nouveau Testament, il nous dit ça, que ça préfigurait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Abraham offrait son fils, mais dans une sorte de préfiguration, il préfigurait la résurrection, parce qu'il avait dit, quand il est allé monter sur la montagne, il avait dit à ses serviteurs de rester là, puis que lui et Isaac iraient adorer sur la montagne, puis qu'ils reviendraient les deux. Donc, Abraham savait que Dieu était même puissant, même pour le ressusciter. Mais pour le type, le bélier est mort à la place d'Isaac, puis Isaac est revenu avec Abraham. Donc, la mort du Seigneur Jésus expie nos péchés. Ça, c'est sa mort qui fait l'expiation pour nos péchés. Son sang, il fallait, dans la parole de Dieu, il nous dit que, dans l'hébreu, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, c'était très important. Il fallait que le sang soit versé. Mais la mort du Seigneur Jésus-Christ, son sang versé, expie pour nos péchés, mais sa résurrection nous donne la puissance de vie. Parce que maintenant, on est dans une nouvelle vie, puis cette vie-là nous est garantie par la résurrection. Les deux aspects du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. C'est important fallait que le Seigneur Jésus ressuscite pour que on puisse maintenant vivre dans sa vie de résurrection. Donc, c'est la même chose pour les boucs qu'on a lus. Un bouc devait mourir, puis l'autre devait vivre. Donc, l'autre, il devait vivre, mais lui, c'était le sort pour Azazel, qui représente la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans Lévitique, au chapitre 16, verset 5, il dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël, deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Mais on voit dans le verset 7 à 10, il dit, il prendra les deux boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Azazel, c'est un terme qui signifie émissaire ou renvoi ou retranchement total. Il devait être envoyé. Donc, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Mais c'est ça, un devait vivre, un devait mourir et l'autre devait vivre. Donc, mais le bouc vivant, lui, devait emporter les iniquités dans un lieu désert. On voit au verset 20-22 de Lévitique 16, il dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc le bouc qui était vivant, lui, devait amener les transgressions, les péchés, les iniquités du peuple. Puis dans le psaume 103, au verset 12, il nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça, c'est vraiment merveilleux quand on s'arrête à penser à ça. On s'approche de Dieu, mais nos transgressions ont été enlevées à cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, c'était un moment très solennel, comme on a dit tantôt, là, quand le peuple attendait, parce que le peuple attendait dehors. Le peuple était dehors dans l'attente parce qu'on venait à Jérusalem pour fêter ces fêtes-là. Mais le peuple n'entrait pas, mais il attendait dehors. Parce que celui qui était entré dans la présence de Dieu, pour eux, ils attendaient qu'il revienne. C'était important. C'était vraiment un temps solennel. Imaginez-vous, il était en prière dehors, puis il attendait. Parce que si le sacrificateur ne ressortait pas vivant, eh bien, ça voulait dire que leur sacrifice n'avait pas été accepté. Mais s'il revenait vivant, ben là, ça voulait dire que Dieu avait accepté, puis pour un an, leur péché était couvert. Le Seigneur Jésus, c'est pour ça que c'était important qu'il ressuscite aussi, qu'il revienne vivant. On va aller dans Luc au verset, on voit cette situation-là dans Luc au chapitre 1. Gardez votre doigt dans Lévitique, mais on va aller dans Luc au chapitre 1, puis on voit cette situation-là avec Zacharie, c'était son tour de rentrer dans la présence de Dieu, puis le peuple attendait dehors. Au verset 8 de Luc 1, il dit, Or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. On a parlé tantôt du parfum qui devait entrer avec le parfum. Eh bien, il dit ici, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude du peuple attendait dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Il y avait toujours la crainte, là. Puis il disait, hein, fallait qu'il illumine leurs âmes. Là, lui, il est dans la crainte. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Mais regardez au verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Donc, il y avait une crainte qui sait, là, comment ça se fait qu'il ne ressort pas? Et s'étonnant qu'il restait si longtemps dans le temple, quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il restait muet. Donc, c'est ça qu'on voit que c'était vraiment solennel. Le peuple attendait dehors, puis il fallait que ce soit accepté de la part de l'Éternel. On dit même que j'avais déjà lu quelque part qu'on lui attachait une corde à la cheville au cas où il serait frappé dans la présence de Dieu pour pouvoir leur sortir. Parce qu'imaginez, s'il était frappé de mort, lui, le représentant du peuple, qui aurait pu entrer pour aller le chercher? Donc, il avait mis une corde à son pied, puis là, il pouvait le tirer pour leur sortir de là. Mais imaginez-vous, s'il avait été frappé, quand même, on sait que Nadab et Abihu, qu'on a lu, et eux, ils ont été frappés de mort. Mais c'est parce qu'ils ont apporté du feu étranger dans la présence de Dieu. Puis, ils n'ont pas fait. C'est comme s'ils n'avaient pas eu la crainte. C'est pour ça qu'il disait après à Aaron de ne pas boire de liqueur forte quand il allait entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il fallait que ce soit solennel, il fallait faire attention, il ne fallait pas faire ça à la légère. Puis le fait que Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, ont été frappés de mort, bien, ça a donné une crainte au peuple, ça. Parce qu'ils n'avaient pas fait avec la révérence, avec la précision que ça devait être fait. Il semblerait qu'ils avaient bu des liqueurs fortes avant de rentrer dans la présence de Dieu. Donc, quand il ressortait vivant, ça indiquait que le péché était couvert pour un an. Mais nous, on sait que ce n'est pas pour un an. C'est parce que le Seigneur ne s'est pas présenté dans un sanctuaire fait de main d'homme, il s'est présenté dans le sanctuaire céleste, puis pas dans celui qui était fait en imitation du véritable, mais il s'est présenté dans le véritable, puis il a été reçu. Parce que dans l'Ancien Testament, ces choses-là, ce n'était pas la perfection. C'est pour ça que c'était pas, fallait répéter constamment. Puis dans la religion, on voit ça, hein, qu'ils ont un sacrifice qu'ils répètent à chaque fois qu'ils font la messe. C'est un sacrifice, le sacrifice de la messe. Puis il y a un autel parce que c'est un sacrifice. Mais nous, on n'a pas d'autel. Puis Mais on voit des fois dans le langage, même évangélique, des fois, en copiant de l'Église catholique, on parle de l'autel, hein, d'avancer à l'autel. Mais il n'y a pas d'autel maintenant quand on se rencontre pour des réunions d'assemblée, parce que le sacrifice y était accompli une fois pour toutes. Mais c'est pour ça. Mais en Christ, on a la perfection. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être répété le sacrifice. Si on va dans Hébreux au chapitre 11, on voit que le sacrifice de Christ, il n'y a jamais besoin d'être répété. On va aller dans Hébreux 10, 11, 14. Puis le fait que, comme la messe, qu'on continue d'offrir des sacrifices, c'est qu'ils ne sont jamais entrés dans le repos de Christ. Ils ne sont jamais entrés dans une œuvre parfaite. Ils continuent encore d'offrir, comme dans l'Ancien Testament, à chaque fois, ils offrent, selon eux, le Seigneur Jésus-Christ, mais jamais qu'on a besoin de répéter ce sacrifice-là. Dans Hébreux 10, au verset 11, on dit: Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc ça, c'était des types, mais dans le Seigneur Jésus-Christ, là, c'était parfait. Mais ici, c'est le jour des expiations pour Israël, puis on l'a appliqué à nous pour nos péchés aussi, parce que c'est le même, l'expiation se fait de la même façon, parce que, comme on a dit, l'expiation, c'est l'action de réparer les fautes pour enlever la culpabilité. Puis c'est toujours de la même façon. C'est toujours, puis ça pointe toujours vers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. On a offensé Dieu par nos péchés, mais lui a pourvu pour nous un sacrifice parfait pour réparer la relation qui avait été brisée. Donc, c'est pour ça que de se faire une religion, ça ne marchera pas. C'est vraiment lui qui a pourvu d'un sacrifice parfait. Parce que même ces sacrifices-là qui étaient faits selon la loi, selon les indications que Dieu avait données, pouvaient jamais amener celui qui offrait ces sacrifices à la perfection. Donc c'est lui qui a pourvu un sacrifice pour réparer la relation qui avait été brisée. Mais maintenant que ce sacrifice a été appliqué, puis on sait qu'il est appliqué de quelle façon? Il est appliqué par la repentance et la foi. Et on a dit que c'est ça, le Seigneur amène à la repentance souvent par des difficultés, des épreuves pour nous amener à réaliser puis qu'on mette notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant que ce sacrifice a été appliqué, l'efficacité de ce sacrifice, on peut maintenant jouir de la communion avec le Dieu trois fois saint. Ça, c'est précieux, là. Pour Jean, on voit dans la première épître de Jean au chapitre 1, Jean trouvait ça vraiment précieux. Or, notre communion est avec son Fils et avec le Père et avec le Fils. Et la communion qu'on a ensemble, bien, elle est basée sur la communion avec le Père et le Fils. Puis Jean, il dit, il nous annonçait ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est quelque chose de très grand. Puis avoir l'assurance d'être avec lui au ciel pour l'éternité. On a maintenant communion avec le Dieu d'éternité sur la base du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, et on a l'assurance qu'on va être avec lui pour toute l'éternité. Tu sais, il n'y a pas une religion qui peut offrir ça. Seulement le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les gens s'évertuent à chercher dans les religions. Mais on n'a pas besoin, ce n'est pas d'une religion qu'on a besoin. On est un peu comme le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, une religion, ce n'était pas bon pour lui. Il ne pouvait plus en faire de religion. Il allait mourir. Il avait besoin d'un sauveur. Puis c'est la même chose pour nous autres. On n'a pas besoin d'une religion, on a besoin d'un sauveur. Israël, ce jour-là, n'auront pas besoin d'une religion. Ils vont avoir besoin d'un sauveur. Puis ils vont le reconnaître dans leur Messie. Donc, en revenant à Israël, on sait qu'Israël, c'est un peuple qui avait reçu des grands privilèges. Vous savez, des fois, on est porté à penser que si Dieu. Comment ça que Dieu avait choisi Israël? C'est-tu du favoritisme? Ben non, parce qu'on sait qu'il avait choisi Israël pour rejoindre les nations. Mais le fait qu'Israël a reçu tous ces privilèges-là, ils sont plus redevables. C'est pour ça que le Seigneur le disait, hein, si les miracles qui ont été faits si les miracles qui avaient été faits dans ces villes-là, Capernaum, il dit, s'ils avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Fait qu'il était plus responsable parce qu'il avait vu des grandes choses. Puis plus on a reçu, plus il va nous être demandé. Donc, c'est un peuple qui a reçu des grands privilèges d'Israël. Ils ont été rachetés de l'Égypte par l'agneau qui était immolé. Dieu les a fait sortir par son bras puissant. Ils ont sorti de la mort, du milieu de la mort, vivants, par la puissance de Dieu. Ils ont été épargnés du jugement des premiers-nés. Quand tous les premiers-nés en Égypte ont été frappés, Israël avait été épargné. Épargné parce que le sang de l'agneau était sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Ils ont été délivrés de Pharaon à travers la mer Rouge. La mer Rouge qui s'est ouverte. C'est des grands privilèges là, quand on pense à ça. La mer Rouge a été ouverte, sont passés à sec pendant que Pharaon, lui, qui s'est engagé aussi dans la mer, il a été englouti par la mer, il a été détruit par la mer. Ils ont été nourris et abreuvés dans le désert. Hein. Il y avait la manne, ils buvaient un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ. Dieu a pourvu, c'est des grands miracles que Dieu a fait pour ce peuple-là. Ils ont entré dans le pays de la promesse à travers le Jourdain. Ils ont passé le Jourdain. Puis Dieu les a donné des victoires, des grandes victoires sur les habitants du pays. Fait qu'on met privilège par-dessus privilège, là. Ils ont été aussi délivrés par des juges quand ils se sont détournés du Seigneur, puis qui criaient, le Seigneur leur envoyait un juge pour que les juges, vraiment, c'était des sauveurs, c'était des délivreurs. Donc, ils ont été délivrés par des juges, puis Dieu leur a communiqué sa parole, il leur a communiqué ses instructions par les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Dieu leur a donné un roi pour les conduire dans la victoire, puis les grandes victoires que David a accomplies pour leur donner un royaume. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse? En réponse de ça, ils ont été un peuple rebelle. Ils ont été désobéissants. Ils ont été incrédules. C'est tout le temps le problème d'Israël, l'incrédulité. Dieu les décrit comme un peuple au cou raide, encore aujourd'hui. Un peuple au cou raide et imitant les nations. Et eux, ils avaient le seul vrai Dieu. Puis ils allaient imiter, ils allaient adorer les dieux des autres nations qui ne pouvaient pas les délivrer. Puis ils ont tué les prophètes. Ils ont rejeté leur Messie, puis ils ont failli complètement dans leur témoignage. C'est pour ça que maintenant, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Maintenant, ils ont besoin de ce jour des expiations, comme on avait dit. C'est pour ça qu'il y avait eu le rachat par l'agneau pascal à la Pâque, mais là, ils ont besoin de l'expiation, puis c'est encore le même, c'est le Seigneur Jésus qui est leur Messie. Donc, Dieu, dans sa grâce, les a préservés. Dieu, dans sa grâce, les a préservés et il va les réconcilier sur la même base que nous. Hein, comme on avait lu dans Romains 11, 30, 32. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, nous, parce qu'ils ont désobéi, maintenant, nous, par la foi, on a été réconciliés, mais eux, par la même foi que nous avons été réconciliés, vont voir que nous qui avions désobéi auparavant, ben, ils vont se reconnaître comme eux aussi, comme étant des désobéissants qui ont besoin de la grâce de Dieu, puis la même grâce qui nous a sauvés. Il va les sauver aussi par le sang précieux de Christ. Donc, comme ça a été un grand événement que Dieu dirige son salut vers les nations après le rejet d'Israël, c'était un grand événement. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait rejoindre les nations à travers Israël, mais ils n'en ont pas voulu. Dans le Nouveau Testament, il rejoint les nations sans Israël. C'est une grande chose, ça. Qu'est-ce qu'eux n'ont pas réussi à faire, qui ont pas, à cause de leur désobéissance, leur incrédulité, Dieu l'accomplit, lui, sans eux. Il a rejoint les nations par lui-même, en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, puis des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça va être encore un plus grand événement quand il va les réconcilier pour les utiliser comme témoignage dans la tribulation avant l'entrée dans le royaume. Ça, c'est dans Romains 11, 12. Puis j'aime beaucoup citer ce verset-là parce qu'il dit, or, si leur chute a été, Romains 11, verset 12, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il? Puis c'est ça qu'on met en face, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Imaginez-vous quand le peuple, au jour des expiations, vont tous être convertis à l'Éternel. Le zèle qu'ils vont avoir, la joie qu'ils vont avoir, la proclamation, quel message qu'ils vont avoir à proclamer. Quand l'Église va être enlevée, Dieu va revenir au témoignage avec Israël. Il va les utiliser pour le témoignage pour les nations. Comme on a dit, il va les rassembler, ça c'est la fête des trompettes. Il va les restaurer spirituellement, ça c'est le jour des expiations. Il va leur apporter le royaume, ça c'est la fête des tabernacles. Mais durant la tribulation, parce que c'est pour ça que ça va être un grand jour, ça va être un grand témoignage. Parce que durant la tribulation, la déception, elle va être très grande. On commence à le ressentir. Et vous, ça devient difficile aujourd'hui de prêcher l'Évangile tellement les gens ont été. Les gens croient qu'il n'y a pas Dieu. C'est comme si la science a prouvé qu'il n'y avait pas Dieu. À cause de l'évolution, puis tout ça, c'est tout, il n'y a rien de prouvé, c'est une théorie. Mais les gens sont tellement aveuglés par ces choses-là qu'on leur parle de Dieu, puis ils pensent qu'on est simple d'esprit, de croire encore en Dieu. Des gens intelligents ne croient plus en Dieu. Des gens intelligents, mais ce n'est pas vrai. C'est une théorie, puis il n'y a rien de prouvé. Mais les gens, donc, mais imaginez-vous combien va être grande la déception dans la tribulation. Déjà, on le voit là. Aujourd'hui, les gens ne sont pas intéressés à l'Évangile parce qu'ils croient qu'il n'y a pas de Dieu. Ils vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas, puis ils ne veulent pas y croire. Mais si on va dans 2 Thessaloniciens, c'est que Dieu va avoir besoin d'un grand témoignage dans ce temps-là. Parce que si, ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. S'il va avoir une grande puissance d'égarement puis d'aveuglement, ben Dieu, il va donner le témoignage dans la tribulation. Moi, je dis que ce témoignage, il va être vraiment fort, vraiment puissant. Regardez dans 2 Thessaloniciens 2, on va commencer au verset 3 et 4. Il dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et vous, la déception, puis regardez le verset 8 à 10. Il dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Puis regardez en plus, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Imaginez-vous comment Satan va faire des miracles, des prodiges mensongers, puis les gens vont croire. Ils vont croire à ça. C'est drôle de dire hein, que les gens nous disent des fois la Bible, ah oui, ça a été écrit par des hommes. Mais eux, ils vont se confier dans des livres qui ont vraiment été écrits par des hommes, puis ça, ils ne questionnent pas ça, parce que ça fait leur affaire. Mais c'est vraiment, c'est l'amour de l'iniquité, parce qu'ils ne veulent pas abandonner l'iniquité. C'est pour ça qu'ils veulent suivre ces choses-là. Mais l'aveuglement, ça va être comme un jugement de Dieu sur ceux qui rejettent son salut. Puis on voit dans l'Apocalypse, là, ils blasphèment Dieu. Parce que devant le jugement de Dieu, au lieu de se repentir, son temps durcit tellement parce qu'ils ont pris la marque de la bête. Maintenant, Dieu leur donne une puissance d'égarement. Mais ça, c'est terrible. Vous savez, quand on voit ça, là, il dit, le Seigneur dit dans Luc 11, 35, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si la lumière qui est en nous devient ténèbre, ça vient. Puis dans Matthieu 6, 23, il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Puis on voit que c'est pour ça que le témoignage, il va avoir une puissance d'égarement, ça va être vraiment de la confusion dans la tribulation à cause des prodiges mensongers de Satan, puis du faux prophète, puis de la bête. Mais aussi, ça va être une guerre. Parce que dans ce milieu-là, au milieu de tout ça, il va y avoir le jugement de Dieu qui vient par des successions de sept sceaux, sept trompettes et sept coupes. Mais il va y avoir aussi, dans la tribulation, il va y avoir les 144 000 qu'on voit au chapitre 7, puis qui sont scellés, puis ils ne peuvent pas leur faire de mal. Au chapitre 14, il y a encore 144 000. Il n'y a pas un qui a été tué. Dieu les a mis là pour donner un témoignage à Israël, mais aussi les nations vont voir ces choses-là. Puis il va y avoir aussi les deux témoins qui vont être vaincus, qui vont être tués, puis qui vont être laissés sur la place publique. Toutes les habitants de la terre vont les voir, mais un jour, après tout, ils vont ressusciter, puis ils vont monter au ciel. C'est des choses, là, tout est à découvert, là. Dans le milieu de la confusion, puis de l'aveuglement, il va y avoir des grandes choses que Dieu va faire. Mais, puis, il va y avoir aussi, il y a trois anges dans l'Apocalypse, il y en a un qui proclame un évangile éternel, puis il y en a un qui proclame le jugement de la grande Babylone, puis il y en a un qui prononce le jugement de ceux qui adorent la bête. Mais de ce grand témoignage va résulter la conversion du tiers d'Israël, du tiers qui va être resté selon Zacharie 13, 8 à 9, là, parce qu'il va y avoir les deux tiers qui vont périr, mais le tiers qui va rester va être converti à cause de ce grand témoignage-là, puis aussi de ceux des nations qu'on voit dans Matthieu 25, dans les versets 31 et 34 et ainsi de suite, là, il y a les nations. Les brebis qui entrent dans le royaume et ont été convertis à cause de ce grand témoignage-là. Donc, la culmination de la grande tribulation, c'est que les nations, sous l'influence de Satan, vont venir contre Jérusalem pour détruire Israël. Mais le Seigneur Jésus va venir, puis il va combattre pour eux autres. C'est lui qui va les délivrer. Puis, ça, c'est quand ils vont se tourner vers lui, celui qu'ils ont percé. Puis Thomas est un type d'Israël qui vont se convertir seulement quand ils vont voir les trous dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, dans ses pieds, dans son côté. Parce que Thomas, on voit dans Jean, on lit peut-être dans Jean, pour le dernier verset, dans Jean 20, puis on voit vraiment ici, c'est une préfiguration d'Israël quand ils vont voir le Seigneur avec les marques dans ses mains. Dans le chapitre 20 de Jean, au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il n'allait pas croire tant qu'il n'allait pas voir les marques dans les mains, dans les pieds, dans son côté du Seigneur Jésus. Comme les Juifs. Les Juifs, ils ne croiront pas tant qu'ils ne verront pas ça. Ils me verront celui qu'ils ont percé, pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. Mais 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Voyez-vous, à ce moment-là, c'est comme le jour des expiations pour Israël. Thomas, il lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc, c'est une préfiguration d'Israël. Au jour des expiations, ils vont mettre leurs doigts dans le trou des clous dans les mains. le met dans le côté du Seigneur Jésus, puis là, ils seront pas incrédules à ce moment-là, mais ils vont croire. Donc, ça va être un grand jour. Puis ensuite de ça, ben, ils vont entrer dans le royaume avec leur Messie, qui va leur donner le royaume après les avoir délivrés de leurs ennemis, leur donner le royaume, puis ça va être un royaume éternel. Donc, ça va être quelque chose de très grand. Puis là, je m'arrête là, puis je vous donne la possibilité de vous prendre votre micro, puis si vous avez des commentaires ou des questions, on va essayer de répondre.
Il y aurait, disons, une question, oui. Le jour, nous, que nous avons connu le Seigneur, Saint-Esprit est venu sur nous, et puis nous avons vraiment compris que nous étions pardonnés. Mais à cette journée-là, pour les Hébreux, le sang était versé, est-ce qu'ils ressentaient le pardon de Dieu comme nous l'avons ressenti, parce que le Saint-Esprit n'était pas donné à ce moment-là? Et le pardon qu'il ressentait, s'il ressentait, j'imagine, ça durait pour un an. Donc, ils avaient l'assurance d'être pardonnés de tous leurs péchés de l'année qui venait de se passer.
Oui, ben c'est ça, c'est que leur péché était couvert jusqu'à ce que Christ vienne. Parce qu'il dit que le sang des brebis et des boucs n'a jamais pu ôter les péchés.
C'est vrai.
Donc, il était couvert en attendant, en prévision, parce que ces choses-là, c'était écrit pour notre instruction. Puis ça préfigurait. Mais dans ce temps-là, les gens, ça, c'était le service lévitique au temple pour nous montrer, nous faire comprendre le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens pouvaient être sauvés, pas par les sacrifices, pas parce qu'ils avaient offert le sang, mais parce qu'ils mettaient leur confiance dans l'agneau de Dieu qui viendrait. Eux, ils regardaient à venir. C'était différent. Ça, c'était le peuple d'Israël. Puis, faut comprendre un peu que le peuple d'Israël, ceux qui, comme Jean le Baptiste, il disait, ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce que je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Puis nous, on est des pierres vivantes, on s'est approché de la pierre vivante. Mais le salut, c'est un peu comme Israël, c'était une explication de la sainteté de Dieu. Mais il y a plusieurs d'Israël qui allaient offrir des sacrifices au temple, puis qui ne sont pas sauvés. Puis, il y en a qui n'étaient pas d'Israël, qui n'ont pas offert les sacrifices au temple, qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il faut démêler un petit peu ici la fonction d'Israël. C'est un peuple témoin. C'est pour ça que quand on arrive aussi dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'ils peuvent être retranchés puis regreffés. Donc, il faut faire la différence entre ça, le fait que ça, c'était le service lévitique dans le temple, la façon de s'approcher de Dieu qui préfigurait le sacrifice de Christ. Parce que c'est seulement par le sacrifice de Christ qu'il pouvait avoir le péché pardonné. Pas si ça répond, René-Lévi?
Oui, merci.
C'est compliqué un peu, là, mais.
Non, mais c'est vrai que ça couvrait le péché, ça l'enleva pas.
Oui, c'est ça, ouais.
En attendant la venue du Messie.
C'est ça, ouais.
C'est bon, merci.
Avais-tu une question, Nelson?
Ouais, ben, tu parlais du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël regardait à la croix, il regardait au futur. D'autres, on regarde en arrière. Le Nouveau Testament, les Coréens regardent en arrière parce que la croix est en arrière de nous. Mais ben, la croix est en avant d'eux. C'est toujours par la foi hein, qu'on vient au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'était par la foi aussi.
Exactement.
Ouais, c'est pour.
Mais Romains 4 nous explique ça parce qu'il nous dit que Abraham fut justifié par la foi. Lui qui est le père de la nation, puis Abraham était avant tout le service lévitique, c'est venu par après avec Moïse. Mais il nous dit que David aussi, qui était le roi de la nation, parce que David exprime, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point son péché. Donc lui aussi connaissait le salut par la foi. Ces gens-là connaissaient le salut par la foi
Ouais.
en vue. Il se confiait pas dans les sacrifices qui étaient. David lui disait, si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais il comprenait que c'est vraiment pour son salut. Pour le pardon de ses péchés, ce n'était pas de les couvrir avec le sang des animaux pour un an, mais c'était vraiment de mettre sa foi dans celui qui viendrait pour faire un sacrifice parfait qui était préfiguré par tous les autres sacrifices.
Dans l'Ancien Testament, quand il offrait des sacrifices, des animaux, là, je pensais à ça, là. Quand on fait une boucherie, là, puis on tue un animal, la senteur du sang, c'est impressionnant, hein? Puis on voit
Oui.
dans les sacrificateurs comment il pouvait avoir des sacrifices, des fois d'une journée, là, Salomon, je ne m'en souviens pas comment il y a eu de sacrifices, là.
Ah oui, c'est
C'était,
innombrable.
ça devait sentir le sang. En tout cas, ça devait être impressionnant, certains, de voir ça. Hein?
Puis quand il brûlait aussi la chair de ces animaux-là, ça sentait fort, là. Quand on brûle la chair, là, ça sent fort.
Oui.
Ça, des fois, on oublie ça, là, au temple, là, il y avait le sang qui était versé, il y avait du sang, puis il y avait l'odeur de ces sacrifices-là, là. C'était quelque chose.
Ça peut nous parler de la laideur du péché, ces
Oui.
choses-là.
Oui. Fait que tout ce que le péché a apporté, c'est ça? La mort, puis. Ouais, c'est vrai.
Le péché a emporté la mort de son fils, le Seigneur Jésus-Christ.
Oui, ben
C'est
oui.
pour montrer la gravité du péché, comment le péché. Il est grand, tu sais. Quand l'Éternel a dit à Adam que s'il mangeait de l'arbre du fruit de la connaissance du bien, du mal, tu mourras certainement.
Ben oui.
Mais il n'avait pas dit que son fils allait mourir. On voit dans Genèse 3:15. Après ça, quand Abraham a commis la désobéissance, le péché, là, Dieu dit à Abraham qu'il y a une espérance que son fils va venir sur la terre. Il va donner sa vie en rançon pour nous sauver. C'est des fois-là, tu sais, tu vois que l'espérance est là pour le croyant.
Ben oui.
La
Mais
part.
c'est sûr qu'on voit la gravité du péché à la croix. C'est là qu'on mesure la gravité du péché. Puis il y avait quelqu'un une fois à qui je prêchais l'évangile, puis elle dit, moi j'ai un péché dans ma vie, mais c'est pas grave. Ben, j'ai dit, va demander au Seigneur Jésus, quand il a souffert sur la croix pour ton péché, comment grave c'était. Ben là, elle dit, c'est fort, là. Ben, j'ai dit, c'est là qu'on mesure la gravité du péché. Donc, on est pas mal arrivé à notre temps. C'est qu'on va peut-être terminer par un mot de prière. Puis s'il y en a qui doivent partir, pourront partir. Mais ceux qui, s'il y en a d'autres qui veulent discuter encore, on pourra discuter. C'est que, Seigneur notre Dieu, on te remercie parce que ces choses sont grandes. Ton salut est tellement merveilleux, notre Dieu. Tu as fait des choses extraordinaires pour nous. On veut te louer et t'adorer. On veut te dire merci, Seigneur, pour ce sacrifice parfait. Accompli une fois pour toutes, qui enlève parfaitement nos péchés, Seigneur, parce que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais on te remercie, Seigneur, pour les choses que tu as faites, que tu nous as données pour qu'on puisse comprendre. Il y a tellement de choses à comprendre dans ce sacrifice que tu as donné tout ce système lévitique-là dans l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre les différents aspects de ce sacrifice unique qui est représenté par plusieurs autres. Seigneur, on te remercie, on te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.